14e cours.
D'autre part, le séminaire coïncide exactement avec ce que nous allons voir maintenant. Je ne peux pas dire d'avance ce que les autres diront vendredi. Je sais bien que tout le monde n'y assiste pas, mais... Alors je vais aller très rapidement sur cette partie. Je ne veux pas dire qu'elle n'est pas intéressante, encore une fois. Elle est plus facile, je crois, que ce qui a été dit précédemment. Elle est plus facile au point de vue descriptif. Elle est peut-être très difficile aussi lorsqu'on veut exactement comprendre le pourquoi de tout cela. Alors là, la difficulté vient. Mais nous essaierons de comprendre. Alors si vous voulez, j'irai rapidement sur cette partie en essayant de vous faire comprendre la signification de ces chapitres 7, 8, 9 et là, il dure bien plus loin qu'il y a. Donc, on peut dire que les derniers chapitres sont pris dans un point de vue logico, se terminent avec le chapitre 7. Ceux qui s'intéressent aux commentaires de Saint-Thomas diront que Saint-Thomas ponctue de façon différente. C'est pas que je crois qu'on doit dire que vraiment le point de vue du logico se termine ici. Parce que nous allons étudier le point de vue du devenir. Et donc si on étudie le point de vue du devenir, nous ne sommes pas dans le point de vue du logico. On est dans une perspective différente. Alors, la question qui se pose toujours, parce que c'est très bien de faire l'analyse, mais il faut se dire pourquoi cette analyse. Alors, je crois que certains d'entre vous se demandaient vraiment pourquoi Aristote avait pris le point de vue du Totienainan pour le point de vue de la Trinité pour essayer de comprendre le point de vue de la substance. Alors, je reviens un instant là-dessus pour essayer d'éclairer ce point de vue-là. Ça reste difficile, hein, il ne faut pas croire que c'est facile au niveau de l'État. Aristote a inventé le mot Totienainan. Vous arrivez à le savoir, j'espère. Aristote a inventé le mot Totienainan pour essayer de nous faire comprendre la différence qui existe entre le domaine de l'intelligibilité et le domaine de l'être. Je crois que c'est vraiment cela qu'Aristote veut nous faire comprendre. En face de Platon, qui identifie le domaine de l'intelligibilité et le domaine de l'être. Puisque Platon passe du point de vue de l'être à l'idée. L'être qui est vraiment être, qui est ousia, qui est substance, en définitive, ce sont les formes idéales. Et les formes idéales, c'est justement ce qu'il y a de plus intelligible et c'est ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Alors vous voyez que chez Platon, il n'y a pas de distinction entre le point de vue de l'intelligibilité et le point de vue de l'être. D'une certaine manière, chez Parménide non plus. Quand vous regardez Parménide, c'est normal que là, chez Parménide, puisque nous sommes en face de quelque chose de tout à fait primitif, de tout à fait premier, très important, mais tout à fait premier. De fait, chez Parménide, il n'y a pas non plus de distinction entre le point de vue de l'être et le point de vue de l'intelligibilité, puisque le point de vue de l'être et le point de vue de la pensée s'identifient. Dès qu'on identifie être et pensée, on identifie intelligibilité et être. Que la pensée, c'est le point de vue justement de l'intelligibilité. Alors, il n'y a pas non plus de distinction. Je crois qu'Aristote, alors on comprend quand il y a une tradition assez forte de non-distinction entre l'ordre de l'intelligibilité et l'ordre de l'être, on comprend que c'est difficile, devant cette confusion, d'arriver à faire comprendre qu'il y a un hiatus. Qu'on ne peut pas identifier l'ordre de l'intelligibilité et l'ordre de l'être. Il y a une distinction entre les deux. Bien qu'à certains moments, les deux s'identifient. Il ne faut pas séparer, puisque de fait, l'intelligibilité, c'est la propriété de l'être. Et donc l'intelligibilité est toujours liée à l'être. Mais il y a quand même une distinction entre les deux. Et cette distinction, à certains moments, apparaîtra de façon très nette. Il y a d'autres moments, au contraire, on retrouvera l'identification. Dans certains domaines, il y aura l'identification. Pour Aristote, les êtres simples, parmi les êtres simples, c'est le privilège des êtres premiers, intelligibilité et être s'identifient. Et c'est en tant que ça qu'il rejoint d'une certaine manière en disant là, il y a quelque chose de juste dans ce que dit Platon. Puisque l'intelligibilité et l'être, dont les êtres simples s'identifient. Mais on ne peut pas, à l'égard des êtres que nous connaissons, qui ne sont pas des êtres simples, ce sont des êtres composés. Et nous sommes nous-mêmes un être composé. Et donc, à l'égard des êtres que nous expérimentons et que nous voyons, tous les êtres physiques, les êtres sensibles, il y a une distinction entre le point de vue d'intelligibilité et le point de vue de l'être. Et c'est justement, je crois, cette invention du Totienainan, de la cuidité, qui est faite pour nous faire comprendre ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité, c'est justement le point de vue du Tokyaïmeina. C'est de montrer le point de vue essentiel d'une chose dans sa définition, une chose se définit, on définit une chose quand on touche son Tokyaïmeina. Or, définir une chose, c'est la mesurer par la pensée. Quand vous définissez quelque chose, vous la mesurez par la pensée. Et vous la ramenez à la pensée, à l'intelligence. À l'intelligence, en tant qu'elle est capable de connaître cette chose. Donc, définir une chose, c'est saisir son intelligibilité. La définition manifeste Tokyaïmeina. Donc, la définition nous montre ce qu'il y a de plus intelligible dans une réalité, ce qu'il y a de fondamental dans l'ordre de la réalité vis-à-vis de cette réalité face à l'intelligence. Oui, si vous voulez, écoutez ça pour mieux saisir. C'est important de réfléchir sur ces données d'aspect première. Donc, l'être et l'illusion, pour Aristote, sont très proches sans s'identifier. L'être face à l'intelligence, face au nous. L'intelligence cherche à connaître l'être. Elle cherche à définir la réalité. Et donc, l'être face à l'intelligence, c'est l'être est intelligible. Et l'intelligibilité, c'est ce qui va déterminer l'intelligence. C'est ce qui va permettre à l'intelligence d'être déterminée. Et quand l'intelligence définit quelque chose, elle nous montre ce qu'elle a compris de la chose. Ce qu'elle a saisi de la chose. La définition, ça vient de l'intelligence. Ça n'existe que dans l'intelligence, c'est l'intelligence qui forge une définition. Et quand l'intelligence définit, elle mesure. Et elle montre l'intelligibilité de la chose. Alors, dans l'ordre de l'intelligible, Aristote va préciser le Tokyaïmeina. Là, c'est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Le Tokyaïmeina, c'est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Alors, est-ce que l'intelligibilité est identique à l'ordre de l'être? Non, on ne peut pas identifier les deux. Or, nous avons vu qu'avant la recherche de l'être et la recherche du type de l'ouvia s'identifie. Donc l'ouvia est du côté de l'être. Bien qu'encore une fois, l'ouvia ne soit pas identique à l'être, cependant l'ouvia représente ce qu'est l'être en premier lieu, proton. Ce qu'est l'être de façon principale. L'être principalement est ouvia. Alors pour montrer la différence qui existe entre le point de vue de l'ouvia et le point de vue de l'intelligibilité, pour bien être cela, on thématise l'intelligibilité. Thématiser l'intelligibilité, c'est le Tokyaïmeina. Je crois qu'on peut dire cela. La thématisation de l'intelligibilité, non pas uniquement l'exercice de l'intelligibilité, mais la thématisation de l'intelligibilité, c'est le Tokyaïmeina. Par là, on montre ce que représente exactement le point de vue du Tokyaïmeina, le point de vue de l'intelligibilité. Et le problème sera de voir est-ce qu'il y a identification entre le Tokyaïmeina et l'ouvia. C'est au fond, on comprend très bien. Et c'est par rapport à l'ouvia, parce que l'ouvia, justement, n'est pas l'être adéquatement, mais l'être principalement. Donc, on pourrait dire, voyez, que l'ouvia, c'est la perfection de l'être. Alors, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, dans l'ordre de la perfection, de distinguer la perfection et la propriété. Si l'intelligibilité est la propriété de l'être, dans un être parfait, la propriété et l'être vont s'identifier encore plus. Et donc la difficulté la plus grande, c'est d'essayer de bien distinguer l'ouvia, perfection de l'être, le être premier, être le plus plénier, et le point de vue de tout ce qui est déjà. Et on comprend comment, alors on va préciser que dans certains cas, lorsqu'il s'agit des êtres premiers, quand il s'agit des êtres premiers, l'ouvia et le Tokyaïmeina s'identifient. Quand il s'agit des êtres premiers, sans préciser où sont ces êtres premiers. Quand il s'agit d'êtres composés, au contraire, on voit la différence entre l'ouvia et le Tokyaïmeina. Et c'est pour ça qu'Aristote fait appel à la définition, parce que la définition, c'est justement ce qui exprime l'intelligibilité de façon parfaite. Et c'est pour ça qu'il fait appel au logos et à la définition pour que nous comprenions mieux ce que le Tokyaïmeina. Donc vous voyez que cette recherche, elle paraît peut-être à première vue inutile parce que le problème de Platon est loin de nous, quoique si nous comprenons ce que dit Heidegger quand il dit que toute la philosophie c'est toujours d'interpréter Platon, on peut dire que le problème de Platon est toujours latent. Je crois qu'il est toujours latent dans notre pensée. Et on peut dire que dans la philosophie occidentale, le problème de Platon est toujours présent. Nous nous platonisons toujours, vous voyez. Nous avons toujours une tendance à platoniser. Parce que l'intelligibilité représente une tendance, ou si vous voulez, une tentation permanente de la vie de l'intelligence. Ce serait tellement agréable que l'intelligibilité s'identifiait. C'est tellement agréable que, de fait, nous puissions dire que le point de vue de la pensée et le point de vue de l'être s'identifient. C'est vrai qu'il y avait une satisfaction pour la vie de l'intelligence de pouvoir dire cela. Et alors, à ce moment-là, on se dit vraiment la plénitude de l'être. Oui. Tandis qu'au contraire, accepter et reconnaître que le point de vue de l'intelligibilité et le point de vue de l'être ne s'identifient pas, c'est de pouvoir dire que l'être est mesure de l'intelligence. Et donc il y a dans l'être quelque chose qui est au-delà de l'intelligence. Et que l'intelligence doit toujours se référer à l'être, et que l'être est antérieur à l'intelligence. Pour pouvoir dire que l'être est antérieur à l'intelligence, il faut nécessairement faire cette distinction entre le domaine de l'intelligibilité et le domaine de l'être. Et pour pouvoir bien faire cette distinction quand on est en face de la confusion de Platon, on comprend très bien la nécessité de thématiser l'intelligibilité en montrant le côté de l'âme. Donc de bien montrer ce que représente l'intelligibilité dans ce qu'elle a le premier. L'intelligibilité dans ce qu'elle a le premier, c'est le côté de l'âme. De fait, ici, nous allons entrer dans une perspective différente. Nous allons retrouver le problème plus immédiatement de la forme. Or, Aristote nous avait dit, il nous l'a dit au point du départ, si vous vous souvenez, que un des problèmes les plus difficiles, c'est de pouvoir distinguer l'idiot et l'endos. Évidemment, là encore, c'est toujours Platon. Parce que le fait que l'idiot et l'endos, chez Platon, l'idiot et être, tout ça s'identifie chez Platon. Alors, Aristote va montrer que nous ne pouvons pas identifier endos et ouvia. Bien qu'encore une fois, il va nous montrer que dans certains cas, ouvia et endos vont s'identifier. Et c'est là la subtilité de la chose. Il dit oui et non, si vous voulez. Il dit oui dans certains cas, non dans d'autres cas. Si on dit oui dans certains cas et non dans certains d'autres cas, c'est un procédé qui manifeste qu'on ne peut pas identifier ce qu'est la substance et ce qu'est la forme. Parce que si on identifiait ce qu'est la forme et ce qu'est l'ousia, nécessairement dans tous les cas, ousia et eidos s'identifieraient. Tandis qu'au contraire, si nous pouvons montrer que dans certains cas, l'ousia et l'eidos ne s'identifient pas, ça prouve qu'ils sont très proches, que l'ousia est première dans l'ordre de l'être et que l'eidos est première. Mais donc, on cherchera la primauté de l'Eidos. Dans quel ordre l'Eidos est-elle première? Elle est bien première. Elle a bien une priorité. L'Eidos est antérieure à la matière. Est-ce que l'Eidos est antérieure au composé? Voilà le gros problème. C'est un gros problème. Est-ce que l'Eidos est antérieure au composé? Que l'Eidos soit antérieure à la matière, tout à fait. Puisque la matière se comprend en fonction de l'Eidos. Mais est-ce qu'elle est antérieure au composé? Est-ce que nous pouvons dire que l'Eidos est antérieure au composé? Étant donné que l'Eidos ne peut exister que dans la matière. Si l'Eidos ne peut exister que dans la matière, donc on voit bien que d'une certaine manière, le composé est une priorité. Donc si l'Eidos a bien une certaine antériorité, il faut préciser cette antériorité. Dans quel ordre l'Eidos est première? C'est toujours pour essayer de comprendre que l'ousia est première dans l'ordre de l'être. L'être ne s'identifie pas à la forme. Et nous comprenons très bien, si l'être s'identifie à la forme, la matière serait de l'être. La perspective de Platon. Si l'être s'identifie à la forme, la matière est le maître. Et la matière n'est pas seulement puissance, potentialité à l'être, donc une modalité d'être, et pas seulement non-être. Alors, on ne peut pas identifier être et forme, on ne peut pas identifier substance et forme. Mais il faut montrer exactement le parallélisme qui existe entre les deux. Et alors, je crois que ceci explique comment Aristote va revenir à l'analyse du devenir. Ça peut vous sembler cela curieux, mais il faut se rappeler ici à toute la perspective de la philosophie de la nature. Ne disons pas que ce chapitre est un retour à la philosophie de la nature. Nous sommes là vraiment en métaphysique et au cœur de la métaphysique, puisque nous sommes dans le livre de Zeta. Alors, ça appartient à l'oubli, en disant maintenant, regardons la physique, ça va nous poser. Fousico. N'est-ce pas? Alors, le Fousico doit s'entendre, non pas du tout, retour à la physique, mais le physico doit être tout simplement considération métaphysique du devenir. Tel qu'il est pris ici, le physico qui s'oppose au logico. Nous avons dit le logico, point de vue de l'intelligibilité, le point de vue, ou du compte, c'est le point de vue réel, si vous voulez. Le point de vue réel. Pour nous, le point de vue réel, c'est toujours le devenir. Pour nous, le point de vue réel, c'est toujours ce qui est vu. Pour nous, le point de vue réel, c'est toujours l'être sensible. C'est là où ils sont réels, au sens premier, hein, génétiquement premier. C'est là où ils sont. Alors, c'est le retour, d'une certaine manière, à l'être qui nous est donné en premier lieu, c'est-à-dire l'être physique. L'être physique nous apparaît en premier lieu dans le devenir. Et c'est pour ça qu'il est normal que si nous reprenons une méthode foudicose pour essayer, Aristote ne le dit pas, il ne dit pas foudicose, il dit donc foudicose, il ne dit pas foudicose, mais étant donné que toujours le loquitose appelle foudicose, on peut dire ici, il ne dit pas, je crois, pour ne pas confondre. Nous ne sommes pas en physique, nous sommes en métaphysique, en philosophie première. Mais il y a très nettement le retour à quelque chose qui est de l'ordre du physique, que c'est ce qui est vu, c'est ce qui devient, ce qui est étudié en physique. Mais ce qui devient est donc étudié dans une lumière métaphysique. Alors pourquoi on revient nécessairement au devenir? Parce que c'est l'analyse du devenir qui nous permet de découvrir en premier lieu le point de vue de l'état. C'est en analysant le devenir que nous découvrons le point de vue de l'exode, c'est le point de vue de la matière. Donc, il est normal de revenir à la naissance de la forme pour essayer de découvrir si la forme s'identifie à l'exode. Il faut reprendre la forme dans un regard nouveau. Platon nous a donné un regard sur l'exode qui risque de nous mettre dans des perspectives impossibles. Parce que pour lui, l'exode, c'est vraiment l'exode métaphysique. Pour Aristote, l'eidos est découverte en premier lieu dans l'analyse du devenir. Et donc il faut revenir au devenir pour essayer de redécouvrir ce que représente l'eidos. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a tout simplement ce retour vers le point de vue du devenir. Alors je vais être très rapide, encore une fois, pour ne pas couper l'air à ceux qui devront se poser dans le séminaire. Alors je dis simplement les choses qui me semblent nécessaires pour que nous ayons quand même une certaine vision sociale du livre des temps. Donc après avoir considéré l'oligos d'une manière purement intelligible, les rapports entre substance et fluidité, substance et topiénénale, Aristote revient à la considération de la réalité sensible, la réalité existante. C'est le devenir qu'il examine parmi les choses qui sont en devenir. De ce point de vue, peut-on identifier, alors reposons la question, peut-on identifier Ouvia et Eidos? Ça, le but, il ne faut pas oublier l'intention, hein. Autrement, on s'y perd, comme c'est le dit autrement, assez fréquent. Alors, il faut bien comprendre que c'est le but d'Aristote toujours, l'affrontement de l'Ousia et de l'Eidos. La priorité de l'Eidos est-elle la même que celle de la substance? Oui, j'interprète, pour que vous voyez mieux. La priorité de l'Eidos est-elle la même que celle de la substance? La priorité de la substance est celle de l'être? Pouvons-nous dire que la forme est première dans notre lettre? Très très important, vous voyez? Et on comprend très bien que là, c'est l'affrontement le plus net à l'égard de Platon. Est-ce que nous pouvons dire que, de fait, l'Eidos est la première dans l'ordre de l'être? Précisons tout de suite que parmi les choses qui sont en devenir, c'est ce que dit Aristote. Donc, chapitre 7, 1032a, 12 et suivant. Donc, je vous indiquerai seulement quand on changera de chapitre, pas pour ne pas fatiguer, si vous avez trop de références, et puis encore une fois, je donnerai quelque chose d'assez rapide. Donc, parmi les choses qui sont en devenir, les unes le sont par nature, d'autres par l'art, d'autres par l'effet du hasard. C'est très curieux, c'est au fond cette division qui va, de fait, être la grande division de ce chapitre, c'est de diviser le point de vue du devenir selon les trois grands aspects du devenir. Vous pouvez avoir trois aspects du venir, et donc la forme va naître d'une certaine manière, d'une triple manière. C'est assez, je crois que c'est très, très intelligent de voir ça, si on essaie de comprendre un peu l'aspect. Donc il y a d'abord les généphèles, ou la génétique foudicale, les généphèles foudicales, c'est-à-dire les générations naturelles. Les générations naturelles. Les généphèles foudicales. Il y aura en second lieu, on va d'abord regarder ça. Vous comprenez bien que c'est dans les générations naturelles sous le problème que ce qu'on appellera ensuite la forme substantielle, là, ça n'aime pas beaucoup cette expression-là, le principe de Leighton va apparaître de façon très nette, par rapport à la matière. Deuxièmement, il y aura l'étude des productions artistiques, c'est-à-dire des connaissances. C'est-à-dire à partir de 1032-26. Et puis, en troisième lieu, l'étude des mouvements qui sont faits par le hasard, qui ne sont ni le point de vue des générations naturelles, ni le point de vue des productions artistiques. Vous voyez ? Et alors qu'ils sont à faux, au chômage. Je crois que c'est très intéressant de voir cette division du devenir. Les trois manières dont nous considérons le devenir. Le devenir naturel, le devenir au niveau artistique, donc la production artistique, et le devenir proprement qui provient du hasard, un faux automato. C'est ce qui devient, c'est ce qui implique une certaine spontanéité, c'est-à-dire vous ne voyez pas d'où ça vient. Les fameuses générations spontanées, vous savez, les fêtards qui apparaissent dans la boue, pas à partir du soleil, alors qu'il y a une génération spontanée, qui apparaît dans la table. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose, ce n'est pas artificiel, ça apparaît comme ça, c'est quelque chose. Tout ce qui est dans la nature apparaît comme ça, dont vous ne pouvez pas déterminer. C'est un devenir, mais c'est un devenir très particulier. Donc, vous voyez, c'est ça qui va donner là, de fait, que j'étais. Il y a trois mouvements très différents, le rôle de la forme n'est pas le même à l'égard de chacun. Si on considère les choses qui sont engendrées par la nature, il faut alors reconnaître que ce par quoi ces réalités naturelles sont engendrées, c'est la nature forme, qui est indivisible, qui est la même dans l'engendrant et dans l'engendré. Mais cette forme n'existe que dans un individu composé. C'est celui-ci qui en définitive est premier. Je simplifie, mais pas tout est juste. Encore une fois, nous verrons ça au séminaire. Donc, priorité du temps. Un homme engendre un homme. Donc la forme a une priorité dans l'ordre de l'analyse, mais de fait, selon la réalité, regardez le point de vue de la réalité, le point de vue de tel que c'est toujours le composé qui est avant. La forme n'existe que dans la nature. Donc la forme, la nature-forme, n'est pas absolument première, à la différence de tout ça. Ça, c'est très curieux. Il y a une priorité de la forme qu'on voit bien quand j'analyse le devenir naturel. C'est sûr que l'analyse du devenir naturel implique de dire que la forme est première puisque c'est la détermination, tout mouvement est déterminé. Et le mouvement est déterminé en fonction de la forme. Et donc, si je veux comprendre ce mouvement, je regarde sa détermination. Et de ce point de vue-là, la forme est première. Mais, en réalité, c'est toujours dans tout devenir naturel, surtout quand je regarde la procréation, quand je regarde la génération de la physique. Je suis obligé de dire que c'est le composé qui est dans le ciel. Donc la forme n'est pas première de façon absolue. Elle est bien ce par quoi je connais le composé. Donc elle a une priorité dans l'ordre de l'intelligibilité, mais elle n'a pas une priorité dans l'ordre de l'être. Puisque la priorité dans l'ordre de l'être, c'est le composé. C'est le composé qui est seul à l'origine même du venu. Tandis qu'au contraire, quand j'analyse, évidemment, du côté de l'analyse, la forme a une priorité. La nature forme a une priorité. Mais la forme n'existe que dans le composé. Vous voyez, c'est bien cette question de l'intelligibilité et de la réalité qui préoccupe Aristote. Je vois bien. Encore une fois, j'interprète, je résume. N'est-ce pas ? Il y a des contours assez intéressants, qui sont très intéressants, je dirais, dans ce chapitre-là. Nous verrons ça au séminaire. Donc, la forme, la nature-forme, n'est pas absolument première à la différence de la substance. La nature-forme ne peut donc pas s'identifier à l'idée. Une telle conclusion n'est pas explicitement formulé dans le raisonnement d'Aristote. Mais je crois que si on regarde attentivement, on le voit bien. Parce qu'Aristote insiste beaucoup sur le fait que la forme est au-delà du mouvement. C'est aussi un aspect très intéressant à voir, ça. Aristote insiste beaucoup que ce qui est engendré, ce n'est pas la forme. Mais ce qui est engendré, c'est le composé. Ce n'est pas la forme. La forme est principe. La nature forme est principe, mais la forme n'est pas engendrée. Donc, on comprend qu'il y a, du côté de la forme, une priorité, non seulement du côté de l'intelligibilité, mais aussi du côté du devenir. parlez pas, André. Donc elle est d'une certaine manière conforme au seul devenir. La matière, au contraire, elle est toujours, elle est aussi d'une certaine manière au-delà de la forme du devenir, mais elle est toujours actuée par le devenir. C'est la très grosse différence. C'est la forme qui actue la matière. Et donc, la matière est toujours actuée par le devenir. Alors, nous voyons bien comment la forme a une double priorité. Priorité du côté de l'intelligibilité, priorité d'une certaine manière dans l'ordre du devenir. Quel est donc le devenir ? Elle n'a pas une priorité dans l'ordre de l'être. Donc je crois que c'est l'essentiel de cette analyse. Deuxièmement, par contre, dans les réalisations artistiques, la forme jouit d'une priorité d'aspect spécial. Alors c'est une chose très intéressante, parce qu'on insiste beaucoup, c'est un des passages où il analyse le plus la production artistique. En effet, la forme, l'éthos, est alors dans l'art. Aristote précise, j'appelle idée, éthos, le totienainan de chaque chose, de chacun, et la substance première. Vous voyez cette définition, parce qu'elle est intéressante, métaphysique donc 7, 1032. De chacun et la substance première. Donc il semblerait bien que ici Aristote identifie Eidos et substance première. Vous savez que c'est le seul lieu dans le livre des heures où Aristote est substance première. Alors évidemment, Hegel est entre parenthèses, c'est un ego, c'est une affirmation. C'est une affirmation d'Aristote, et c'est une affirmation que je crois que c'est bien comme une affirmation d'homme. Je dis homme, la fluidité de chaque chose et la substance première. Donc, dans l'ordre de l'activité artistique, vous viendrez voir, cette affirmation est dans l'ordre de la perspective de l'analyse qui donne de la production artistique. Dans l'ordre de l'activité artistique, la forme idée, cette forme sans matière, précise-t-il, rentre de l'activité artistique. Dans l'activité artistique, j'ai une idée sans matière. Cette forme sans matière est principe. Et elle est cuidité, Totienainan, de l'intelligibilité de ce qui va faire. Et elle s'identifie en dernier lieu à la substance. Aristote note à ce propos, j'entends par substance sans matière la cuidité. Donc c'est deux grandes affirmations. Livre, donc, toujours, 7, 1032, B14. Alors mettez en paresse ces deux affirmations, elles sont très importantes. Dans l'ordre artistique, je crois que nous pouvons dire, dans l'ordre artistique, l'idée est substance. Dans l'ordre artistique, l'idée est substance. C'est-à-dire, dans l'ordre artistique, Platon a raison. L'idée est substance et elle est la cuidité. Si nous regardons le monde d'un point de vue artistique, nous pouvons dire que de fait la substance est l'idée. Parce que dans une œuvre artistique, la substance de l'œuvre artistique, c'est l'idée. C'est celle qui fait l'œuvre, qui réalise l'œuvre. Et l'idée est vraiment première. Elle est mesure de l'œuvre. Donc elle est l'œuvre, elle est l'idée, elle est l'intelligibilité, et non seulement l'intelligibilité, mais elle est l'expression de l'œuvre. Donc elle est la substance de l'œuvre. Donc dans l'œuvre artistique, nous avons cette identification. Alors que dans l'autre, dans d'autres domaines, c'est pas fait. Mais dans l'ordre artistique, nous pouvons dire que le point de vue de Leidos, le Totienainan et l'Ousios sont ici. Oui. Ça donne à penser. Moi, je pourrais réfléchir là-dessus. C'est intéressant à penser, cette chose-là. C'est quelque chose là qui est très, très intéressant comme affirmation pour essayer de bien comprendre. Donc, dans l'ordre artistique, mettez Leidos égale Totienainan. Et dit explicitement, et regarde substance première. Donc nous y sommes là. La substance première, c'est l'éthos, c'est le société, c'est l'identification. Alors c'est assez curieux que dans l'ordre artistique, nous retrouvons quelque chose de semblable qu'à l'égard des êtres premiers. Aristote avait dit au chapitre précédent que dans les êtres premiers, le taux qui est inénable s'identifiait avec la substance. Dans les êtres premiers. Dans les êtres premiers, on avait vu le Totienainan s'identifiait à la substance, il n'avait pas parlé de Eidos, il n'en parlait pas. Tandis qu'ici, dans l'ordre artistique, il nous dit que Eidos, Totienainan et substance, ou via, procès, s'identifient. loin de cela. Mais la forme idée, c'est les principes premiers dans l'ordre de la pensée, ne peut se réaliser sans une certaine matière présupposée. Alors là, il y a quelque chose qui est très ennuyeux. Vous voyez, ce chose, exactement, qui nous montre le réalisme de l'œuvre d'art. Parce qu'au fond, c'était la forme idée que possède l'artiste. C'est les principes premiers dans l'ordre de la pensée. Dans l'ordre de la pensée, elle est bien ouzia sans la terre. L'idée de l'artiste est ouzia sans la terre. Parce qu'elle est première. Et les premières dans son fort, c'est celle qui détermine toute son activité, qui détermine toute son foyer. Donc, mais la forme idée, si elle est première, si elle est principe ou première dans l'ordre de la pensée, ne peut se réaliser sans une certaine matière présupposée, antérieure à l'ordre de la réalisation. Il faut nécessairement cette forme s'incarne. Et cette forme s'incarnant doit nécessairement assumer quelque chose qui n'est plus du domaine de l'éthos. Vous voyez, l'éthos est bien première, mais n'est pas première. Elle est première dans l'ordre de la pensée. Dans l'ordre de la pensée, l'éthos est l'idée. Dans l'ordre de la pensée, l'éthos est bien l'intelligibilité première, bien l'intelligibilité au sens fort. Donc, si on considère l'activité artistique et la réalisation de l'œuvre d'art, il faut reconnaître que la forme idée et la matière substrat possèdent l'une et l'autre une certaine priorité selon leur ordre propre. L'idée n'est que la substance sans matière. Elle n'est pas la substance de l'œuvre. La substance de l'œuvre, c'est autre chose que l'idée. Le résultat des idées, l'œuvre, l'ergon, n'est pas la substance dans la matière. C'est pas un but au point de vue de la matière. C'est pourquoi Aristote peut dire réaliser un ceci, tosefi, c'est réaliser un ceci à partir d'un substrat pris de façon absolue. Donc le tosefi, au sens réaliste, que cette réalité singulière implique toujours la matière. Et la matière ne fait pas partie de l'ousia eidos. Elle ne fait pas partie de la substance idée. Donc là, nous voyons que même dans l'ordre artistique, à un moment donné, il semblait bien qu'on pouvait faire cette identification. À un moment donné, on peut faire l'identification. Mais on ne peut pas la dire jusqu'au bout. À un moment donné, on peut dire, quand l'artiste réalise quelque chose, à un moment donné, Eidos, toutes les métales et substances premières s'identifient en lui. Il y a une identification en fait. Donc, on voit très bien comment, d'une certaine manière, l'activité artistique permet d'unir Eidos et Ousia. Et cependant, si on va jusqu'au bout de l'activité artistique, et si on va jusqu'à l'œuvre, à ce moment-là, non, il faut dire qu'il y a autre chose. Il y a la matière qui est à l'œuvre. Et la matière, c'est toujours la chose difficile. La matière présupposée à l'œuvre artistique. Hein. On ne réalise pas exactement ce qu'on veut. On ne réalise pas exactement ce qu'on pense. L'idéal qu'on pense, il y a quelque chose. Hein. Alors on voit bien, c'est réaliser. C'est pourquoi on peut dire réaliser un ceci, donc un taux d'ici, absolument existant, c'est réaliser un ceci à partir d'un substrat et d'une façon absolue. Quelque chose qui s'impose. Aristote peut conclure. Il est certes bien manifeste, à partir de ce que nous avons dit, que ce qui est appelé comme idée ou substance n'est pas engendré, mais que c'est le tout qui tient son nom de cette idée qui est engendrée, et que dans tout ce qui est engendré se trouve de la matière, et qu'il y a en lui d'un côté un ceci et de l'autre un cela. Je veux dire qu'il est d'une part matière, d'autre part force. Cette affirmation donc est au livre 8. Comme le livre 7 et le livre 8 se tiennent très fort, on voit bien la contradiction. Aristote peut conclure. Il est donc bien manifeste qu'il y a cette identité entre les deux, mais cependant, toujours dans le composé, il y a la distinction entre matière et forme. Et c'est la matière qui empêche à l'éthos d'être substance. C'est la réalité de la matière, ça c'est bête. C'est la réalité de la matière qui est échec. L'identification, alors vous voyez, ça éclaire énormément. Pour Platon, la matière est un être. Si la matière est un être, il n'y a plus de difficulté. Pulvériser la matière, vous avez à ce moment-là l'identification de l'éthos et de la substance. c'est très important de voir ça, parce que ça fait comprendre en définitive l'échec de tout idéalisme. C'est la matière. C'est toujours là, on voit. Hein? La dialectique, c'est l'identification de l'histoire de la substance. Enfin, quand vous prenez la dialectique et l'idéal, c'est l'identification entre les deux. L'échec, c'est la matière. C'est toujours là l'échec. Il y a toujours là, au dernier moment, quelque chose qui fait que quelque chose qui est antérieur. Quelque chose qui est antérieur et qui n'est pas pensé. Vous ne pouvez pas penser ce qui est antérieur. Vous pouvez penser ce qui vient de vous. Vous ne pouvez pas penser ce qui est antérieur. Ce qui est antérieur comme matière, qui est donné comme premier, c'est qu'on voit qu'on ne peut pas identifier le point de vue de l'Eidos et le point de vue de la substance. La formité ne peut être substance au sens absolu, car si elle possède une certaine priorité, ce n'est pas la priorité de ce qui est, plutôt des mais celle d'un principe nature-forme qui détermine la réalisation et le leitmotiv de l'artiste. C'est une priorité de principe. La forme a une priorité de principe, ce n'est pas une priorité dans l'ordre de l'être. Cette forme idée demeure dépendante d'un être composé, individuel et concret, à tout défaut. Aristote donc peut conclure, les formes idées pour ces raisons, ne sauraient être des substances comme telles. Ça s'est produit, 1033b29. Quant aux choses qui sont produites par le hasard, troisième manière de regarder le devenir, le rôle de la matière est encore beaucoup plus manifeste et beaucoup plus important que dans les œuvres produites par l'art et par la nature. Que les œuvres produites par l'art et par la nature, c'est une victoire de la nature sur le hasard. Les œuvres produites par l'art, c'est une victoire de la nature sur le hasard. Donc c'est une victoire de l'Eidos sur le hasard. Enfin, les œuvres produites par la nature, c'est une victoire de l'Eidos sur la matière. Comme les œuvres produites par la nature, c'est une victoire de la nature forme sur le produit de la matière. Tandis qu'au contraire, les œuvres qui sont produites par le hasard, c'est justement les œuvres où la matière apparaît avec toute sa force. Dans les œuvres, donc, produites par l'art et la matière est dominée par la forme. C'est-à-dire, par les œuvres produites par l'art et la matière est dominée par la forme. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de ces réalités où on ne regarde plus le point de vue de la nature et le point de vue de l'art, alors au contraire, la matière apparaît d'une façon très forte. Car la matière est alors une matière vivante capable de se mouvoir par elle-même. Très joli comme ça. C'est dans le livre donc 9, 1034a10. Car la matière est alors une matière vivante, capable de se mouvoir par elle-même. On voit très bien les générations spontanées. C'est une matière vivante qui se meut par elle-même. Donc qui se meut par elle-même. Et alors à ce moment-là, nous sommes en face d'une réalité où l'endos disparaît et la matière en dessous. C'est pas très important. Vous voyez, si vous regardez la perspective d'aujourd'hui, vous aurez. Si on regarde la perspective d'aujourd'hui, je pense à mon livre, parce que c'est intéressant de voir toutes ces choses-là en parallélisme à ces choses-là. Eh bien, de fait, le premier, j'ai passé, vous voyez, donc c'est très bien. Le premier n'existe plus et existe plus. C'est la dialectique entre les deux. L'art et le hasard. Et alors, le hasard provient justement de cette matière vivante. Cette matière vivante qui cache des choses extraordinaires dedans. Et l'art qui intervient. L'art qui intervient, qui détermine. Vous voyez ? Mais le point de vue de la nature disparaît. Il n'existe plus. Il n'y a plus de point de vue de la nature au sens fort. Il y a au contraire une matière vivante sur laquelle on met la mort. Vous voyez ? Et sur laquelle il y a la puissance, la science, de la science. C'est-à-dire que la science moderne a toujours un point de vue artistique. Toujours un point de vue artistique d'intervenir, de déterminer, de vouloir déterminer davantage le point de vue indéterminé. Ce qui part, c'est la science comme telle, et les applications de la science vont avoir ce point de vue du poignet faible. Alors il y a ce dialogue entre le point de vue du poignet faible et le point de vue de cette matière vivante qui se meut elle-même. Notons, si vous voulez, pour achever cette étude de ces chapitres. Notons cette analogie qu'Aristote énonce au terme de ces diverses analyses y venir. Comme dans dans les syllogismes, nous sommes à la fin du chapitre 9, 34, 1, 30 et 31. Comme dans les syllogismes, le principe de toute chose, c'est la substance. Car c'est à partir du TSI que se font les syllogismes et que se font ici même les générations. Très intéressant ce parallèle. Hein. Tout à penser directement. Très intéressant de voir le parallélisme du développement de la pensée dans le syllogisme et le développement du venir dans l'ordre naturel. Le philosophe nous montre bien par là qu'au-delà de tout devenir et de tout mouvement, il y a quelque chose qui n'est pas soumis au devenir et au mouvement, qui est réellement antérieur. Tout devenir physique présuppose une forme, une idée, une exode. Oui, matière. Mais au-delà de cette forme idée, et au-delà de cette forme idée, il y a la matière. Tout devenir présuppose une substance et est ordonné à une substance. Tout devenir est ordonné à être. De façon médiate, quand il s'agit d'un devenir à l'égard de telle ou telle qualité ou de telle quantité, d'une façon immédiate quand il s'agit de la génération du vivant. Mais il y a quelque chose de propre à la substance, à savoir la nécessité au départ de l'existence d'une autre substance qui soit en acte et qui soit source de production. Par exemple, un animal qui engendre un animal, tandis que pour la quantité ou la qualité, cela n'est pas nécessaire. Il suffit que cette détermination accidentelle préexistante. Donc voyez, je crois que le terme de cette grande étude, de ces différents chapitres, c'est de voir que de fait, la forme a bien une priorité, mais la priorité première, au-delà du venir, c'est le point de vue de la substance. Nous entrons ensuite dans toute l'étude du tout et des parties. Et nous verrons ça. C'est une sélection, c'est très amusant, parce que ça fait comprendre le mesurable. Oui, alors essayez, dans un livre de psychologie expérimentale, essayez de voir qu'est-ce qui est annexé. Et pensez sensible propre, sensible commun. Vous verrez que le sensible propre est mis entre parenthèses, et bien on en a que ce qui est mesurable. Tout est extérieur de l'extension de l'avenue, c'est vrai, tu mesures ça. Donc nous continuons.
15e cours.
Pour leur intérêt propre, les neurones assez rapides. Donc les chapitres 10, 11 et 12 forment comme un certain tout assez particulier qui est justement l'étude des parties et du tout. Le chapitre 10 donne la définition du tout en se demandant justement dans quelle mesure il contient celle des parties. Alors vous voyez que nous sommes là de nouveau, si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit précédemment à propos des chapitres 7, 8 et 9, nous avions vu que le logico est déterminé, la perspective de l'intelligibilité est déterminée, et que nous retournions vers le point de vue du physico. Et ici, au contraire, on va de nouveau retourner vers le point de vue de la définition. Alors, on peut dire évidemment que d'une certaine manière, il y a un retour vers le point de vue de la définition après être revenu sur le point de vue du coup de cause. Ou est-ce que de fait, ces chapitres auraient mieux été ordonnés après les autres et qu'il y a comme là une coupure particulière des chapitres 7, 8 et 9. On peut discuter sans s'étendre là-dessus. Je crois qu'on ne pourra jamais donner de solution. Il suffit de constater que de fait, il y a là un problème qui se pose. C'est pas si commode que ça de voir que la continuité est là. Alors je n'entrerai pas trop dans ce problème-là. Essayons de regarder l'importance et l'intérêt de ces chapitres 10, 11 et 12, qui sont donc des chapitres sur la définition et sur les parties de la définition. Et alors, d'une certaine manière, nous retrouvons ici une perspective très nette de l'importance du taux des là. Donc nous retrouvons le point de vue de la crudité. Alors que le point de vue de la crudité avait été justement abandonné dans les trois chapitres précédents, où on avait regardé que le point de vue de l'exode. C'est pour ça que ça ferait comprendre assez bien que ces chapitres 10, 11 et 12, d'une certaine manière, devraient être en continuité avec les chapitres sur la crudité. J'indique là un petit problème intéressant, mais dont on ne peut pas donner une solution. On ne va pas. Il y a toujours des hypothèses qu'on pourra donner. Donc, les chapitres 10 et 11 et 12 que nous allons voir maintenant. 13, de la définition et des parties de la définition. ils apparaissent comme une étude n'ayant qu'un rapport indirect avec les chapitres précédents, surtout ceux qui sont immédiatement précédents, et se rattachant beaucoup plus avec les autres. Aristote, du reste, semble reconnaître, puisqu'il commence son chapitre 13 de cette manière, mais puisque notre recherche concerne la substance, revenons à notre sujet. Donc vous voyez, on voit bien que d'une certaine manière, il a considéré qu'il y avait là quelque chose d'un peu particulier. Et si vous regardez la manière dont Aristote recommence le chapitre 10, il dit ceci, l'orithmos, la définition, étant un logos, et tout logos a des parties, et le logos est protopragma. Nous retrouvons le tropragma qu'on n'a pas vu jusque maintenant. Tropragma, c'est la réalité. Comme tout logos est vers le pragma, et comme les parties du logos sont égales par rapport aux parties de la réalité. La question se pose dès lors de savoir si le logos des parties doit être ou non présent dans le logos du tout. Vous voyez, c'est un problème beaucoup plus de logique et de ce qu'on représente la définition. Comment avoir une bonne définition? Est-ce que les parties font partie de la définition? Mais comme la définition a été utilisée pour bien déterminer le taux Neyman, par là nous comprenons comment ces chapitres 10, 11 et 12 ne sont pas étrangers à la substance parce qu'ils regardent le taux Neyman. Et dans la mesure où le taux Neyman intéresse la substance, ces chapitres qui intéressent le point de vue de l'activité intéressent donc la substance. Vous voyez, c'est un peu intéressant. Hein? C'est comme si Aristote s'intéressait particulièrement à la question de la partie et du tout. Au point de vue de la définition. Il y a là, évidemment, je crois, un souci historique par rapport aux sophistes d'une part, par rapport aux pythagoriciens d'autre part,